Audiolib présente Rebecca de Daphné du Maurier, lu par Virginie Méry. Chapitre 1. J'ai rêvé la nuit dernière que je retournais à Manderley. Je me tenais près de la grille qui donnait sur l'allée, mais impossible d'entrer. Le portail était fermé par un cadenas et une chaîne. J'appelais le gardien. Personne ne répondait. Regardant mieux entre les barreaux rouillés, je vis que le pavillon était inhabité. Aucune fumée ne sortait de la cheminée, et les petites fenêtres à carreaux losangés étaient ouvertes, abandonnées. À ce moment-là, comme il arrive dans les rêves, je me trouvais soudain investi de pouvoir surnaturel et traversais tel un esprit la grille qui me bouchait le passage. L'allée serpentait devant moi avec ses méandres habituels, mais à mesure que je progressais, je m'avisais d'un changement. Étroite et mal entretenue, ce n'était plus l'allée que nous avions connue. D'abord déconcertée, je ne comprenais pas, et ce n'est qu'en penchant la tête pour éviter une branche basse que je m'aperçus de ce qui s'était passé. La nature avait repris ses droits, et petit à petit, à sa manière furtive et insidieuse, elle avait gagné sur l'allée en étendant ses longs doigts opiniâtres. Les bois, toujours menaçants, même autrefois, avaient fini par triompher. Les arbres se pressaient, sombres et sans discipline, jusqu'au bord de l'allée, serrés les uns contre les autres. Les hêtres aux membres blancs et nus mêlaient leurs branches en un étrange enlacement, formant au-dessus de ma tête comme une voûte d'église. Et il y avait d'autres arbres encore, des arbres qui ne m'évoquaient rien, des chênes trapus et des ormes torturés qui frayaient intimement avec leurs devanciers. Ils avaient surgi de terre aux côtés de gigantesques buissons et d'énormes végétaux dont je n'avais pas davantage souvenir. L'allée n'était plus qu'un ruban éthique survivance du tracé de jadis. Le gravier avait disparu, étouffé sous les herbes et la mousse. Les branches basses des arbres gênaient la progression, tout comme leurs racines noueuses, semblables à des griffes de squelettes. Ça et là, dans cette jungle, je reconnaissais des buissons qui avaient autrefois constitué des repères. C'étaient des plantes gracieuses cultivées avec soin, des hortensias dont les fleurs bleues étaient jadis célèbres. Nulle main n'avait jugulé leur croissance, et ils avaient recouvré leur état naturel, atteignant une taille colossale, sans produire aucune fleur, aussi noire et hideuse que les parasites en tout genre qui poussaient alentour. À l'infini, tantôt vers l'est, tantôt vers l'ouest, sinuait le pauvre petit lion qui avait été notre allée. Parfois je le croyais perdu, mais il ressurgissait derrière un arbre tombé ou par-delà une tranchée boueuse qu'avaient creusée les pluies d'hiver. Je ne pensais pas le trajet si long. Les kilomètres s'étaient à coup sûr multipliés de la même façon que les arbres, et ce sentier ne conduisait qu'à un dédale, à un maquis inextricable, et plus du tout à la maison. Je la découvrais subitement. Elle m'avait été masquée par le foisonnement monstrueux d'un immense fourré tentaculaire. Et je restais figée, le cœur battant à grands coups, l'étrange piqûre des larmes derrière mes paupières. C'était Manderley. Notre Manderley, secret et silencieux, tel qu'il l'avait toujours été. Sa pierre grise, luisant au clair de lune de mon rêve. Ses fenêtres à meneaux reflétant les pelouses vertes et la terrasse. Le temps n'avait pu détruire l'admirable symétrie de l'édifice, non plus que la perfection de son emplacement. Un joyau dans le creux d'une main. La terrasse descendait vers les pelouses et les pelouses couraient jusqu'à la mer. En me retournant, je distinguais la nappe d'argent placide sous la lune, tel un lac que ne trouvait